Notre invité signe le roman qui a très certainement fait le plus parler de lui depuis sa sortie. 2084, La fin du monde, figurait sur toutes les premières sélections des prix littéraires français. Boualem Sansal vient de remporter d'ailleurs le grand prix du roman de l'Académie française. Un prix décerné pour la troisième fois de son histoire à deux écrivains, puisqu'il a aussi récompensé Eddy Kadour pour Les Prépondérants. Et j'ai donc le plaisir d'accueillir Boualem Sansal en direct de Paris en duplex. Bonjour.
Bonjour.
Première question quand même que j'ai envie de vous poser, c'est comment avez-vous vécu cette double récompense ?
Vous pensez bien, très bien, c'est très flatteur. L'Académie est une superbe institution qui délivre des prix qui ne sont entachés généralement d'aucune suspicion, ce qui n'est pas forcément le cas pour les autres prix, où on suppose que derrière, il y a des jeux d'éditeurs, des manœuvres diverses et variées.
Donc c'est voilà. Le prix que vous rêviez secrètement d'obtenir, j'imagine ?
Je ne rêvais pas spécialement de prix. Moi, je crois que je me contente de mon livre et de l'opinion, à la fois donc des critiques, c'est important, mais surtout du public. Le livre a rencontré son public, un public important, qui le lit avec beaucoup d'intérêt. C'est ça qui était recherché. C'était pour moi de mettre en débat certaines de mes idées qui sont partagées par beaucoup de gens. Et pour faire avancer les choses. Le reste, évidemment, c'est du plus, qu'on obtienne un prix, et ceci et cela, c'est important, mais c'est pas l'objet.
C'est le magazine Nouvel Observateur qui vous avait qualifié, Boualem Sansal, de kamikaze dans une édition en septembre dernier. On apprenait alors que vous viviez reclus chez vous, en Algérie, à Boumerdès, que vous receviez des lettres d'insultes et de menaces. Est-ce que la situation a changé depuis, justement, ce prix de l'Académie française, ou est-ce qu'elle s'est empirée?
Ce genre de situation ne change que dans le sens de l'aggravation. Je vis dans un pays quand même qui est très travaillé par à la fois des un système dictatorial, militaire et policier quand même, et puis aussi un système islamiste qui est là, qui domine la société, qui est très vigilant, qui est très revendicatif et très dangereux. Mais ceci dit, ma façon de vivre, discrète et fait que ces menaces ne sont pas si importantes que ça. Je suis, c'est vrai, calfeutré, bloqué dans ma maison, je ne sors pas trop. Mais c'est peut-être plus le résultat de ma façon de vivre que d'une peur réelle de la chose. Malgré tout, en ce moment, en Algérie, si on veut bien faire l'effort, on arrive à vivre à peu près normalement.
Qu'est-ce qui vous retient, Boumerdès ?
Ce qui me retient, d'abord parce que c'est mon pays, je trouve que c'est tout à fait normal de vivre dans son pays, surtout lorsque, à la fois, ce pays est en danger, donc voilà, fuir son pays, c'est un peu fuir le bateau, laissant femme et enfant derrière soi. Deuxièmement, je me considère comme un intellectuel engagé dans parmi beaucoup d'autres, évidemment des milliers, peut-être des millions de personnes, engagées pour la libération de mon pays, de la dictature militaire, de la corruption, de la religion, de l'islamisme, de toutes ces choses dangereuses et ces fariboles. Alors ça, on ne peut le faire qu'à partir du pays. Aller venir le faire à Paris ou le faire à partir de Genève est carrément une insulte pour les gens que l'on prétend libérer.
Une insulte pour les Algériens, si vous quittiez ce pays, Boualem Sansal. Alors, on connaît évidemment vos prises de position anti-islamisme. Dans votre dernier roman, dans 2084, La fin du monde, vous n'utilisez jamais le mot islamisme, ni islam, ni Allah, ni prophète. Est-ce par prudence que vous vous êtes interdit le blasphème, ou par peur ?
Non, pas du tout. C'est réellement le résultat d'une considération très analytique, très réaliste. Moi, j'essaie de raconter le monde dans, on va dire, pratiquement dans un siècle. Je ne sais pas ce que sera. Je pense, et je suis assez convaincu, qu'il sera dominé par une religion, laquelle, je ne sais pas trop. Elle viendra probablement de l'islam, qui déjà est en train d'évoluer, qui est quasiment remplacé par l'islamisme, et diverses formes d'islamisme. À la longue, cet islamisme lui-même va évoluer. Ce qu'il sera dans 50 ans, j'en sais rien. Il y aura probablement une forte dose d'islam l'islam là-dedans, de ces choses-là, mais aussi tout ce que l'islamisme est en train d'inventer comme considérations théologiques, philosophiques et autres. Donc je ne sais pas trop. Mais
vous inventez quand même une nouvelle religion dans votre livre. Hein. Dieu a été remplacé par Yola, Abi en est le délégué, ce monde labistant à sa propre langue, la bilangue, la patience, la croyance et la soumission sont les principales vertus, mais il y a également des références franc-maçonnes hein, dans votre livre, dans ce monde. Ça, c'est votre pire cauchemar ?
Ah oui, mais cauchemar, c'est pas seulement un cauchemar, c'est, je veux dire que c'est une réalité dans laquelle on patauge déjà.
Hein. Donc pour vous, il y a déjà des signes
mais absolument, et depuis longtemps. Ça a commencé il y a une bonne cinquantaine d'années, en Égypte, en Afghanistan, au Pakistan, puis ça a été autour de l'Algérie dans les années 80, et puis ça progresse, ça a fini par gagner l'ensemble du monde arabe, la chose maintenant s'étend en Afrique, au Mali, au Nigeria, au Soudan et ailleurs, mais aussi la chose prend pied en Europe, ici et là, c'est encore des petits territoires, mais qui se portent bien, qui se construisent, et qui consolident leur position. Ben, ils font leur travail, je veux dire qu'ils sont là dans une démarche de conquête et d'affirmation de leur croyance, et donc les choses avancent. Et on peut penser à cause du fait qu'en face, il n'y a aucune résistance et peut-être même il y a un certain abandon. On peut penser que dans 50 ans, 70 ans, 80 ans, ben, ces territoires dominés par la religion seront encore plus grands. Alors, y aura-t-il une seule religion donc, qui procéderait un peu de l'islamisme, ou y aura-t-il d'autres religions, un peu comme on peut le penser avec les évangélistes en Amérique du Nord et du Sud? C'est possible. On pourrait avoir deux États religieux comme ça, une véritable dictature obscure, vraiment terrible. Mais on peut aussi penser qu'il n'y en aurait qu'une seule. Parce que je pense qu'à la longue, les religieux vont faire une sorte d'alliance. Ils se rejoignent sur beaucoup de choses. Ils seraient bien capables de faire un deal sur une religion qu'ils sont peut-être en train d'inventer en ce moment.
Avec cette force qui est la langue, hein, la bilangue, vous écrivez déjà que les mots sont très courts, hein, trois lettres, pas plus, et surtout qu'elle n'est pas une langue de communication. Elle crée une force qui isolait les croyants entre eux. Là aussi, comment imaginer aujourd'hui la mort de l'arabe, la mort du français et in fine celle de l'écrivain ?
Ah, c'est très simple. Hein. Regardez ce qui se passe dans une caserne, de l'armée, hein, une caserne. Vous mettez là 10 000 hommes, vous utilisez une centaine de mots, pas plus, garde à vous, fixe, etc., à droite, à gauche, avec une centaine de mots aussi simples, vous faites de ces hommes qui, avant d'entrer à la caserne, étaient de parfaits citoyens, vous en faites des soldats, des gens qui marchent au pas, bien alignés, habillés de la même manière, pensant de la même manière, vivant sur le même rythme. Mais ce n'est pas tout. Au bout d'un certain temps de ce conditionnement, vous allez en faire des gens prêts à mourir pour n'importe quoi, pour ce qu'on leur dit, les idées qu'on veut leur donner, et pire que ça, ils seraient aussi capables d'aller tuer toutes les personnes qu'on leur désignera. Donc vous voyez qu'avec quelques mots bien structurés, bien organisés, mais ce n'est pas suffisant. Les mots sont dans une sorte de rituel, une mécanique mentale qui est mise en place. On valorise l'héroïsme, on valorise la mort, le sacrifice pour un pays, pour un homme, pour une idée, une idéologie. On développe des faussetés, genre la camaraderie de caserne, etc. Donc des mots simples, structurés dans des mécaniques très simples, ça fait des hommes les plus intelligents du monde, des bêtes monstrueuse, capable de se suicider, de suicider l'humanité entière.
Et sans pensée, sans espoir. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, Boualem Sansal, puisqu'on arrive au terme de cette interview. Vous avez vécu le terrorisme islamiste dans les années 90 en Algérie. Des intellectuels, des journalistes ont été tués, parmi eux des amis. L'écrivain Tahar Jaout a été assassiné en pleine rue. Il disait, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, parle et meurs. Cette phrase, vous la répétez souvent ?
Quasiment tous les jours, oui, il faut absolument parler. Il faut quand même qu'on travaille à sauver nos enfants. Bon, bah, à la limite, nous, on est, disons que c'est trop tard. Mais travailler à sauver nos enfants, à sauver notre pays, et puis si possible, passer le message à d'autres qui peut-être ne sont pas très conscients parce qu'ils n'ont pas vécu ces choses-là. Ils les considèrent comme peut-être des phénomènes marginaux, mais attirer leur attention. Et, bah, très, très bien, mais soyez quand même vigilants et essayez de faire en sorte de résister à cela. Et puis si vous pouvez nous aider, nous qui sommes pris dans le piège, ce serait très sympathique.
Boualem Sansal, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation du 12-30. Vous étiez en duplex de notre studio de Paris. Je rappelle donc votre livre, 2084, La fin du monde. C'est publié chez Gallimard. Vous avez reçu d'ailleurs le grand prix du roman de l'Académie française. Et puis on vous retrouvera, pour vous entendre plus longuement, à 16h30, dans Vertigo, toujours sur La Première. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.